Et sans plus tarder, je vous invite à tourner les pages de votre Bible dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 20. Et nous allons faire une lecture progressive du texte à partir du verset 1 jusqu'au verset 30. Mais nous allons lire les passages en suivant, de manière à rester attentif sur le passage lu et en faire l'analyse du texte et l'application. Prions s'il vous plaît. Notre Père, nous te demandons ta bénédiction. Nous te demandons de nous rendre attentifs à ta parole, que nous ne soyons pas des auditeurs oublieux. Merci de la journée de jeûne et prière que nous avons eue hier, pour la fidélité de ta présence, de ta grâce, de ton pardon, de ton amour. Et nous comptons sur toi, Papa du ciel, encore une fois ce matin, de bénir ta parole et que toute la gloire te revienne. Merci de ta parole qui est riche, qui te glorifie. Gloire à toi, Père éternel. Amen. Il est écrit au chapitre 20 de 2 Chroniques, « Après cela, les fils de Moab et les fils d'Ammon et avec eux des Maonites marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. On vint en informer Josaphat en disant, « Une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à Hatsatson Tamar, qui est en Guédi. » Alors, Josaphat, un roi en Juda, devenu roi en 870 avant Jésus-Christ, exactement à l'âge de 35 ans, régna pendant 25 ans, et ce fut un grand temps de prospérité. Vous savez, quand Dieu bénit, il y a un autre qui voudrait faire obstacle immédiatement. On n'a pas à le craindre, mais c'est une réalité. Et l'Écriture donne ce témoignage au sujet de ce roi, et vous savez qu'il y a eu beaucoup de rois en Israël et en Juda, des bons rois et parfois de très mauvais rois. Il est écrit, il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Et je dois dire que ce serait merveilleux que si on devait écrire notre biographie, à la fin de notre vie, quelqu'un puisse écrire, il fit, elle fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. En fait, ce roi envoya des Lévites pour enseigner la loi de Dieu au peuple. Et il fit régner la paix entre Juda et Israël, parce que c'était les frères ennemis. Il y a eu même la guerre civile dans certains temps. Et finalement, il combatta la Syrie avec un roi qui s'appelait Akab, qui lui n'était pas un bon roi, un roi en Israël qui fut tué par une flèche par hasard, n'est-ce pas? Et c'était en fait un jugement de Dieu. Et alors le prophète Jéhu a repris Josaphat de s'être allié avec Akab. Mais les peuples voisins craignaient Josaphat, au point où même les Philistins, les Arabes lui apportaient des tribus. Mais au moment où Josaphat était en train de réformer le système judiciaire, les Moabites, les Ammonites et les Édomites se liguèrent et commencèrent à envahir Juda par le sud-est. C'est ce que nous avons lu des versets 1 à 2. Et le texte que nous allons regarder ensemble ce matin relate finalement la victoire sur ces nations du peuple d'Israël. En fait, il est écrit, après cela, les fils de Moab et les fils d'Ammon, et avec eux, des Moabites marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. C'était un roi dont le peuple était paisible. C'était un roi qui avait fait des réformes qui étaient une bénédiction pour tout le peuple. Et des années de bénédiction sur un peuple. C'est extraordinaire cela. Qui n'a pas envie de vivre une vie d'église en paix, qui prospère, qui est béni de l'Éternel et qui vit dans la justice de Dieu. Or, vous savez, malheureusement, lorsque les enfants de Dieu marchent en obéissance avec lui et en sa parole, eh bien, l'ennemi essaie de mettre le trouble. Et là, ce n'est pas n'importe quoi. Il envoie une multitude nombreuse face au peuple. Vous savez, quand on vit dans la paix, on n'a pas tellement envie d'être troublé tout d'un coup par une multitude de problèmes. Et pourtant, Dieu permet cela. Et la question ce matin, à laquelle je pense le texte va répondre, et à laquelle aussi on doit répondre, est la suivante. que faites-vous lorsque l'adversaire vous attaque? Que faites-vous lorsque l'adversaire vous attaque? Est-ce que ça vous arrive d'avoir de faire face à de l'adversité, à des adversaires au pluriel? Eh bien, certainement que Dieu nous demande de revêtir toute l'armure du croyant telle qu'elle est décrite en Éphésiens chapitre 6. Mais ici, face à cette attaque terrible et soudaine et qui dépasse les forces d'Israël, le roi réagit. Et dans sa réaction, il y a un mélange de frayeur, mais aussi de foi. Et c'est ce qui nous arrive parfois face à l'adversité. Il y a un mélange de frayeur et de foi, mais Dieu va susciter en Josaphat la foi pour contre-attaquer l'attaque de l'adversaire. Vous savez, le croyant n'est pas appelé à être passif face à l'adversaire, mais à réagir. Et c'est ce que fait Josaphat, si vous continuez à lire le texte avec moi, verset 3 jusqu'au verset 5, alors peut-être vous allez tenter déjà de lire tout le texte avant que je progresse dans le texte. Alors je vous demande patience et de suivre le texte avec moi, si vous voulez bien. Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel. Il publia un jeûne pour tout Juda. Juda s'assembla pour invoquer l'Éternel, et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Josaphat se présenta au milieu de l'assemblée de Juda et de Jérusalem dans la maison de l'Éternel devant le nouveau parvis. Quelle est la réaction de Josaphat? Comme j'ai déjà mentionné, une certaine crainte. Pourtant, nous les croyants, nous aussi, nous pouvons parfois faire face à l'adversaire avec crainte ou même plutôt frayeur. Et pourtant, la Bible dit que Jésus-Christ est venu pour détruire les œuvres du diable. Mais Jésus-Christ lui-même a appelé Satan le prince de ce monde. Et ce n'est pas anormal que nous fassions face à Satan. Que faites-vous lorsque Satan frappe à votre porte? Eh bien, il y a une petite jeune fille un jour qui a répondu: quand Satan frappe à ma porte, j'envoie Jésus-Christ lui répondre. C'est une belle petite histoire. Et nous, que faisons-nous? Comment réagissons-nous? Est-ce que nous sommes passifs? Nous baissons les bras? La brèche que Satan veut faire, nous la laissons l'agrandir et finalement être dominé par le diable? Ou est-ce que nous réagissons envers celui qui est déjà vaincu et qui, à la fin du millénium, du règne de Jésus-Christ, sera enchaîné dans les ténèbres du dehors, l'abîme au siècle des siècles? Certainement, nous attendons cela. Eh bien, Josaphat, ici, il a un cœur disposé à chercher l'Éternel, à trouver la réponse en Christ, en Dieu. Nous, c'est en Christ, en Dieu. Et il publia un jeûne pour tout Juda. Dire, pour tout Juda, ces milliers de personnes, hommes et femmes, vieillards, enfants. Eh bien oui. Devant l'adversité, il se met à prier et à consulter l'Éternel et à jeûner. Et puis finalement, il appelle tout Juda à intervenir. Et je me demande, moi, si notre Église, on a commencé hier, mais on était plusieurs à penser, mais il faudrait continuer, ce n'est qu'un début d'une bonne convocation sainte et solennelle, de se mettre à genoux pour prier, intercéder et réclamer la victoire de Dieu. Vous avez peut-être un conjoint converti, un père, un frère, pour lequel vous aimeriez que Dieu intervienne. Pourquoi ne pas faire une telle convocation et se mettre à genoux tous ensemble et voir Dieu agir puissamment? Ça fait toute une différence. Et quand on lit dans le Nouveau Testament, quand l'Église est à genoux, c'est pas une position d'attaque, hein? À genoux, c'est s'affaiblir quelque part. Au contraire, c'est au contraire se fortifier et devenir vainqueur. Lorsque le peuple de Dieu est à genoux, les choses bougent. Eh bien, c'est une leçon à retirer ici, une application dans nos vies. Que faisons-nous lorsque l'adversité est là Est-ce que nous prenons le temps vraiment de prier et de nous rassembler? Bien, Juda s'est rassemblé. Ce qui est extraordinaire, c'est que le peuple était en confiance avec ce roi. Et lorsque le roi demanda à tout le peuple de s'assembler, eh bien, ils se sont assemblés pour invoquer l'Éternel d'un seul cœur, d'une seule âme, d'une seule pensée. Et on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Alors, se rassembler, on l'a vu hier. Excusez, j'ai fait une application un peu pratique. Ça demande de prendre du temps, ça demande de laisser nos affaires personnelles, de rendre cette convocation, finalement, en faire une priorité. Ça demande de laisser les autres choses et peut-être de venir même de loin. Mais voyez-vous, les gens, ils sont venus de loin. C'est vrai qu'ils étaient motivés parce qu'ils risquaient leur peau. Et c'était question de vie ou de mort, parce que la multitude nombreuse était en face. Mais vous savez, parfois, le croyant joue sa peau. Et dans les moments de persécution, c'est vrai que l'Église en réveille, parce que persécutée implore l'Éternel. Mais l'Église qui fait face tout autour d'elle à bien des adversités, et peut-être le sommeil spirituel devrait aussi se réunir et faire d'une convocation solennelle une priorité pour invoquer l'Éternel et avoir les réponses de Dieu. Je me demande si dans nos vies, nous prendrions le temps de nous laisser convoquer par Dieu dans des moments peut-être personnels ou de petits groupes ou collectifs pour prier et jeûner, parce que nous avons tous besoin de réponses à certaines prières et à certaines circonstances. Est-ce que vraiment nous plaçons le jeûne et la prière en priorité dans nos vies pour attendre de Dieu sa réponse? Il n'y a pas de sujet, il n'y a pas de circonstance où nous ne pouvons pas nous placer devant Dieu dans le jeûne et la prière. Mais pas de n'importe quelle façon. Et ici, à partir du verset 6 jusqu'au verset 13, on va lire ensemble maintenant la prière de Josaphat. Le peuple est là, Josaphat se sent soutenu par le peuple, il a déjà prié et jeûné, il a invoqué Dieu, et le peuple est devant lui. Et voilà la prière qu'il adresse à Dieu devant tout le peuple. Et il dit, verset 6, « Éternel, Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux? Et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? N'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance et à qui nul ne peut résister? N'est-ce pas toi ou notre Dieu qui a chassé les habitants de ce pays devant ton peuple d'Israël et qui l'a donné pour toujours à la postérité d'Abraham qui t'aimait? Ils l'ont habité. Ils qui ont bâti un sanctuaire pour ton nom en disant, s'il nous souvient que calamité, l'épée, le jugement, la peste ou la famine, nous nous présenterons devant cette maison et devant toi, car ton nom est dans cette maison. Nous crierons à toi du sein de notre détresse, et tu exauceras et tu sauveras. Maintenant, voici les fils d'Ammon et de Moab, et ceux de la montagne de Séir, chez lesquels tu n'as pas permis à Israël d'entrer quand il venait du pays d'Égypte, car il s'est détourné d'eux et ne les a pas détruits, les voici qui nous récompensent en venant nous chasser de ton héritage dont tu nous as mis en possession. Ô notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux? Car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. Tout Juda se tenait debout devant l'Éternel, avec leurs petits-enfants, leurs femmes et leurs fils. Alors, si nous regardons un petit peu à cette prière de Josaphat, tout d'abord, nous voyons au verset 6 une prière qui s'adresse à un Dieu avec une grande révérence vis-à-vis de Dieu et une attitude pleine de respect. Il faut dire que parfois, lorsque nous prions Dieu dans nos cultes personnels ou en petit groupe dans l'Église, nous avons parfois tendance à nous précipiter devant Dieu. On se demande même si c'est une prière adressée à Dieu dans sa présence ou adressée aux autres. En fait, il n'y a pas de prière véritable si d'abord nos yeux ne sont pas fixés sur Dieu et sur ses promesses qu'il nous a données dans sa parole. Est-ce que lorsque nous prions Dieu, nous avons conscience que c'est le Dieu de l'univers ? Que c'est un Dieu que nous devons craindre parce qu'il est saint, et nous devons nous approcher de lui avec crainte et tremblement, parce que certainement purifié par le sang de l'agneau qui nous a lavés de nos péchés, mais devant un Dieu qui est tout-puissant, un Dieu qui est Dieu et vers qui nous allons avec tout le respect. C'est une conversation. Nous nous adressons à Dieu pour nous placer dans sa présence et regarder les choses sous le regard de Dieu, afin de voir les choses comme Dieu les voit et donner une dimension à nos circonstances et à nos besoins sous le regard de Dieu. Il y a beaucoup de croyants qui se plaignent, qui murmurent, qui sont défaits, parce qu'ils ne voient leurs circonstances qu'au travers de leur propre force humaine. Ils ont oublié de regarder à Dieu et d'avoir les yeux fixés sur Dieu, celui qui peut tout transformer, tout faire, parce qu'il est Dieu. D'ailleurs, Néhémie, en chapitre 1, lorsqu'il s'adresse à Dieu pour demander à Dieu le retour du peuple à Jérusalem et la reconstruction du temple, il s'adresse à Dieu comme un Dieu grand et redoutable, souverain, créateur des cieux et de la terre. Et dans Daniel chapitre 9, lorsque Daniel s'adresse à Dieu pour lui demander d'exaucer en fait la promesse dans le livre de Jérémie que Jérémie avait écrite à propos du peuple d'Israël qui se resterait 70 ans captif à Babylone, et quand la date fut venue et la période justement de l'exaucement de cette promesse, Daniel s'est mis à jeûner et à prier et à demander à Dieu en consultant les Écritures que Dieu exauce cette promesse, cette prophétie et permette au peuple de revenir en Israël. Et Dieu l'a fait. Mais il s'adresse à un Dieu tout-puissant. Il s'adresse à un Dieu basé sur ses promesses. Et il rappelle à Dieu les victoires du passé, les promesses faites à Abraham et le fait que le pays appartient à qui finalement? Est-ce qu'il appartient à Israël, ce pays? Non, il appartient à Dieu lui-même. Et toucher le pays qui appartient à Dieu, dont Israël est l'héritier, c'est toucher à Dieu lui-même et à ses promesses. Que faisons-nous, frères et sœurs, lorsque nous sommes attaqués par l'ennemi qui voudrait prendre notre héritage spirituel? Les bénédictions de Dieu dans les lieux célestes déjà données, est-ce que nous le combattons dans la force du Seigneur? Est-ce que nous croyons en Colossiens qui dit que Dieu en Jésus-Christ a dépouillé toutes les dominations, toutes les autorités, et qu'en Christ nous avons tout pleinement? Cet héritage spirituel qui est le nôtre en Christ ne doit pas être diminué, affaibli, envahi par l'ennemi qui voudrait nous empêcher de jouir de toutes les bénédictions célestes en Christ. Nous avons tout pleinement en lui. Et lorsque l'adversaire est là, frappe à la porte ou se fait face à notre vie, nous pouvons réclamer la victoire et nous présenter devant Dieu qui est le Seigneur des Seigneurs et celui qui a vaincu le diable. Amen. Ouf, certains ont dit amen. Heureusement, nous n'avons aucune force face au diable. Nous n'avons aucune force face à ces milliers de démons, plus méchants les uns que les autres, sournois, pervers, qui veulent envahir cette terre et posséder les hommes. Nous n'avons aucune force, si ce n'est nous réfugier en Dieu, en ses promesses, et nous avons la garantie, gloire à Dieu, notre héritage, qui ne peut se flairir ni se souiller, parce que gardé par Dieu lui-même. Lorsque le diable veut ravir le prix de notre course et nous affaiblir, nous faire trébucher, alors nous pouvons réclamer la victoire, comme nous l'avons chanté, victoire, parce que nous avons déjà la victoire en Christ, peu importe notre situation. Aussi, Josaphat, s'il a l'audace d'une telle prière, c'est qu'il a la foi en Dieu. C'est qu'en fait, il croit en la fidélité de Dieu. Et il dit ceci au verset 9, « Tu écouteras et tu sauveras. » Il a la conviction, c'est une prière de conviction. La Bible dit, « Demandez, vous recevrez, frappez, l'on vous ouvrira, cherchez, vous trouverez. » Matthieu chapitre 8, verset 8, 7 et 8. Et la Bible dit que quoi que ce soit que nous demandons, nous avons l'assurance de le recevoir si nous demandons selon la volonté de Dieu. Josaphat avait la conviction qu'il était dans la volonté de Dieu de délivrer son peuple. C'est une conviction qui vient d'une relation intime avec son Dieu. Il y a parfois des croyants qui tout d'un coup réalisent, oui, Dieu est le libérateur. Dieu peut les libérer, mais ils ont oublié dans leur vie quotidienne de dépendre de ce Dieu. Et alors ils sont étonnés que peut-être ça prend un peu de temps que Dieu les exauce, parce qu'ils ont besoin d'apprendre à nouveau à dépendre de Dieu, à se confier en lui. Et lorsque Josaphat, dans cette prière spirituellement faite d'autorité, mais de soumission envers Dieu, il a la conviction, « Oui, Seigneur, tu écouteras et tu sauveras », qui veut dire « Tu délivreras ». Ce n'est pas de la suffisance, ce n'est pas de l'insolence, mais c'est une foi basée sur la parole de Dieu. Vous savez, quand nous, les enfants de Dieu, nous disons au monde perdu que nous sommes sauvés, ils nous prennent pour des gens orgueilleux. Alors que si nous ne sommes pas humiliés, et justement, si nous n'avons pas reconnu notre orgueil, nous ne pourrions pas être sauvés. Alors il vaut mieux reconnaître son orgueil sur terre et s'humilier que d'entrer dans l'éternité, aller en enfer, tout orgueilleux que nous sommes. En fait, il n'y a pas d'orgueil dans la vie du croyant parce qu'il s'est réfugié en Dieu qui est le seul sauveur. Et comme il a goûté à la délivrance face à l'adversité, il continue de dire « Seigneur, oui, tu sauveras, tu délivreras, tu écouteras et tu agiras. » Au verset 12, ici, il y a quelque chose, je ne sais pas si vous avez remarqué avec moi dans la lecture, « Ô notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux ? Car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous. » Il n'y a pas d'arrogance ou il n'y a pas de sous-estimation de la puissance de l'adversaire. Il voit la multitude telle qu'elle est, nombreuse. Il voit sa faiblesse qui s'avance contre nous et nous ne savons que faire. C'est dans la mesure où Josaphat et le peuple d'Israël ont reconnu qu'ils ne pouvaient rien faire face à cette multitude que leurs yeux se sont fixés sur Dieu. Et là, nous avons besoin d'apprendre quelque chose. Nous sommes, nous aussi, sans force face à l'adversaire. Qui sommes-nous ou qui serions-nous pour prétendre combattre le diable tout seul, qui est comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Une fois, on est allé avec mon épouse et nos chers enfants visiter le zoo. Heureusement qu'il y avait des grilles. Quand le gardien a donné ces gros beefsteaks épais comme ça, larges comme ça, aux lions en cage. Heureusement qu'ils étaient en cage, parce que vous auriez vu les lions manger la viande. C'était très rapide. Et quelle force pour déchirer la viande et l'englutiner. Et je pense que c'est la même chose vieille de nous. Quand Dieu dit qu'il est comme un lion rugissant, je peux dire effectivement que nous pourrions devenir la proie de Satan et rapidement être déchirés. Face aux agissements du diable, reconnaissons notre faiblesse. Plus que notre faiblesse, notre incapacité totale. Nous sommes sauvés par grâce, sans aucun effort, si ce n'est placer notre foi en Christ. Et nous sommes délivrés de la même façon en plaçant notre force en lui. C'est pour ça qu'un jour de jeûne, c'est peut-être s'affaiblir physiquement, apparemment, hein, parce que Dieu nous a soutenus et nous a fortifiés, et fortifie dans le jour de jeûne. Mais c'est reconnaître à genoux notre incapacité. Voyez-vous ce qui est assez extraordinaire quand même? Bon, le peuple se tenait debout, mais devant Dieu. Ils ne se sont pas précipités de retourner chez eux, d'aller chercher leurs armes, leurs lances, leurs épées, et puis d'aller combattre. D'abord, ils ont placé leur confiance en Dieu. Ils ont reconnu ce que Jésus-Christ nous dit à nous, les enfants de Dieu, de la Nouvelle Alliance, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas lire la Bible. Hein. Ça ne veut pas dire qu'il faut prier. Ça ne veut pas dire qu'il faut évangéliser. Mais tout cela sans le Seigneur, c'est vain. Vanité des vanités. C'est dans la mesure où nos yeux restent fixés sur Jésus. C'est pour ça qu'en Hébreux chapitre 12, il est écrit que nous devons garder les yeux fixés sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, celui qui nous a tracé le chemin de la foi. Et dans ce chemin de la foi, il y a l'humiliation. Le Seigneur a pris lui-même l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Il a choisi de se soumettre à Dieu le Père. Et si Dieu le Fils a appris à se soumettre à Dieu le Père, à combien plus forte raison, nous les enfants de Dieu qui ne sommes pas comme le Fils de Dieu, Dieu lui-même, vous avez compris, nous devons apprendre à dépendre de lui et à regarder à Jésus-Christ. Parce que comme Pierre qui a cessé de regarder lorsqu'il est sorti de la barque, il s'est rapidement enfoncé dans les eaux du monde qui souvent sont agitées autour de nous. Si nous ne gardons pas les yeux fixés sur Jésus-Christ, nous allons aussi aller et courir à l'échec. Au verset 13, il est écrit « Tout le peuple se tenait debout devant l'Éternel, avec leurs petits-enfants. » C'est marrant. « Leur vie dépendait de Dieu. » Je dis bien « leur vie dépendait de Dieu. » Ils ont réalisé que devant cette multitude nombreuse, devant ces nations liguées ensemble, il y en avait trois, ils perdraient la bataille. Ils ont amené leurs enfants. Et dans le mot hébreu ici, c'est l'idée de la marmaille. Même les bébés étaient présents. Ils n'étaient peut-être pas debout. Mais toutes les familles d'Israël, toutes les femmes et leurs fils et les hommes se tenaient devant l'Éternel. Et ça me fait penser que là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu de Dieu. Et quoi que ce soit que vous demanderez, vous le verrez. Est-ce que nous le croyons? Est-ce que nous nous réunissons pour prier? Mais en plus, dans le Nouveau Testament, il est écrit que tout le peuple était assidu au temple, qu'ils étaient d'un même cœur, qu'ils partageaient leurs biens, qu'ils étaient ensemble. Je crois que nous avons une façon de voir le Nouveau Testament qui est faux. Nous pensons que nous devons vivre avec Christ seul. Nous lisons le Nouveau Testament, c'est l'affaire de ma vie personnelle avec Christ. Mais dans le Nouveau Testament, il y avait une pensée qui nous échappe aujourd'hui dans notre société faite de tellement d'individualistes, et même les croyants, c'est qu'il y avait une pensée communautaire. Les affaires de Dieu étaient les affaires de l'Église. Et ensemble, ils priaient. À tel point que quand ils priaient, le lieu où ils étaient, qu'est-ce que nous dit les Actes des Apôtres ? Tremblaient. Et ils furent tous, parce que tous réunis, remplis du Saint-Esprit. Il y a une force dans le fait qu'un peuple s'unit et plaide sa cause devant Dieu. Je n'ai pas pu m'empêcher, comprenez cet exemple. Je me suis imaginé, lors de l'invasion, malheureusement, des Allemands par Hitler, hein, cette folie terrible d'invasion, de conquérir les pays, de les dominer. Si la France avait été évangélique, et si elle s'était mise debout pour prier, Dieu les aurait exaucés. C'est une pensée qui m'est venue à l'esprit, mais si nous étions tous ensemble, le monde aurait moins d'attrait dans nos vies, le péché aurait moins d'attrait dans nos vies, et le diable aurait moins d'accès, parce que nous ferions face aux ennemis du croyant ensemble. Et quand on est tous ensemble en train de confesser notre faiblesse, de reconnaître notre incapacité, c'est alors quand le peuple de Dieu est à genoux, apparemment tellement faible aux yeux du monde, qu'il est fort, parce que Dieu intervient. Ce qui est merveilleux dans cette histoire, c'est que Dieu a répondu à la prière de Josaphat. Regardons ensemble au verset 14. « Alors l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Jacaziel, fils de Zacharie, fils de Benaja, fils de Jéiel, fils de Matania, lévite d'entre les fils d'Azaph. Et Jacaziel dit, « Soyez attentifs, tout Judas et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat, ainsi vous parle l'Éternel. » C'est merveilleux ça, hein? On aime entendre quand Dieu répond, « Ainsi parle l'Éternel. » Ah, quelle autorité! « Ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Demain, descendez contre eux. Ils vont monter par la colline de Tzitz et vous les trouverez à l'extrémité de la vallée, en face du désert de Jéruël, vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Juda et Jérusalem, ne craignez point, et ne vous effrayez point. Demain, sortez à leur rencontre, et l'Éternel sera avec vous. » Ça fait penser aux paroles de Moïse. Vous vous souvenez, Moïse, face à la mer. Eh bien, il s'est écrié, parce que le peuple le pressait. Ils étaient entre la mer et les chars de Pharaon. Et Dieu a suscité en Moïse la délivrance. Lorsqu'il a levé son bâton, la mer rouge s'est ouverte, le peuple est passé, et ensuite la mer a englouti tous les ennemis d'Israël. Et Dieu a dit à Moïse, l'Éternel, Exode 14, verset 14, l'Éternel combattra pour vous. Quand David s'est présenté devant Goliath, personne ne voulait aller défier ce géant qui était Goliath. Mais David apostropha ainsi, « Moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. » C'était impossible aux yeux de Saül, ses généraux, ses vaillants guerriers. Ils tremblaient comme des feuilles devant ce géant qui mesurait, je ne sais plus, 3,50 m, quelque chose comme ça. Personne ne voulait aller défier ce géant, mais David s'est levé. Ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la bataille appartient à l'Éternel. Et j'aime beaucoup ce verset qui dit, le cheval est préparé pour la bataille, mais la victoire appartient à l'Éternel. Retenez cela, souligné dans votre Bible. La victoire appartient à l'Éternel, et dans le psaume 35, verset 3, il est écrit, ton salut, c'est Dieu qui parle à David, c'est moi. Est-ce que nous en sommes vraiment convaincus que Dieu est le seul qui puisse sauver? Vous vous souvenez, dans le jardin de Gethsémané, quand les soldats sont venus saisir Jésus, il y avait un disciple qui aimait beaucoup Jésus. Ah, l'apôtre Pierre, un homme impulsif, hein? Prompt, Seigneur, que cela ne plaise, j'irai mourir avec toi. Pierre, tu vas me renier. Jésus a mis l'accent sur la faiblesse de Pierre, tout impulsif qu'il était. Vous savez, l'humiliation profonde qu'a connue Pierre et le besoin d'être rétabli ensuite. Et quand Jésus a été entouré de soldats, qu'est-ce qu'il a fait? Pierre, il a sorti son épée et pouf, il a tranché l'oreille, enlevé l'oreille du soldat. Et Jésus a pris l'oreille, il l'a remise à sa place. Pourquoi? Parce que le salut ne vient pas par notre propre force, ni l'épée de l'homme. Si les hommes et les femmes de ce monde pouvaient comprendre cela, il n'y aurait plus de guerre, plus de terrorisme, plus de bombes, des vies sacrifiées comme on voit aujourd'hui. Et encore plus, c'est terrible ce qui se passe aujourd'hui. Comme Pierre. Est-ce que Dieu a besoin de l'épée de Pierre pour établir sa justice? La justice de Dieu, c'était le chemin de la croix. C'est là où Jésus devait aller jusqu'au bout. Il n'avait pas besoin de l'épée de Pierre. Pierre a voulu agir par lui-même, mais en fait, c'est par l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Ce n'est pas par notre force, mais c'est par ta force, Seigneur, que tu peux nous libérer. Aussi, il y a une chose, moi, que je trouve extraordinaire dans cette réponse. Qu'est-ce que Dieu dit au peuple? Dieu le conduit exactement là où il doit être. Vous savez, les gens, certainement, étaient tellement inquiets et effrayés parce qu'ils allaient mourir avec leurs femmes et leurs enfants, et toute leur prospérité et la justice de Dieu établie dans ce pays allait être détruite. Satan veut détruire l'Église qui marche bien d'ailleurs. C'est une application, je pense, qu'il ne faut pas oublier. Eh bien, ils se sont tenus debout devant le Seigneur et le Seigneur a voulu enlever leur frayeur. Mais regardez bien ici, Dieu leur a dit où se tenir. Et moi, je pense que là, Dieu a une application à faire dans notre vie. Nous nous agitons, nous nous effrayons face à l'adversité, mais Dieu est avec nous. Celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde, et voici, je serai tous les jours avec vous jusqu'à la fin du monde. Et quand Dieu dit ici, voilà, l'Éternel sera avec vous, verset 17, il est en train de leur dire, écoutez-moi, c'est moi qui vais faire la différence. Croyez et vous verrez. Maintenant, croyez dans ce que je vous dis. Et demain, vous verrez. Parfois, nous mettons la charrue avant les bœufs, nous voulons voir avant de croire. Mais la réponse de Dieu ici, c'était finalement croyez, croyez et tenez-vous à votre place. Et parfois, nous nous agitons, les enfants de Dieu, nous faisons de l'activisme et nous voulons agir pour Dieu. Mais nous ne sommes pas à la place où nous devons être. Et quelle est la place où nous devons être? Ben, la place où Dieu nous a placés. C'est tout simple que je vous dis là, en Christ. Il n'y a pas d'autre place pour le croyant. C'est en Christ où nous devons demeurer. C'est en Christ qu'est la victoire. C'est en Christ qu'est la paix. C'est en Christ que la bataille est déjà vaincue. Paul disait, nous marchons par la foi et non par la vue. Et la Bible dit, alors nous verrons face à face, lorsqu'il sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous nous verrons tel qu'il est. Nous le voyons sans le voir. Et pourtant, la Bible dit que nous devons croire et que nous allons voir parce que Dieu va accomplir ce qu'il a promis parce que nous sommes en Christ. Mort avec lui à la croix, ressuscité avec lui à une vie nouvelle, assis dans les lieux célestes. Moi, je trouve ça, ce passage, extraordinaire. Comment Dieu répond exactement aux besoins du peuple. Ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Et en Ésaïe, il est écrit que le jeune homme chancelle et se fatigue, mais qu'il renouvelle ses forces comme l'aigle qui prend l'envol. Et parfois, nous nous battons de l'aile, hein, qui que nous soyons jeunes et moins jeunes. Et nous nous agitons, et nous battons de l'aile, et nous nous fatiguons. Alors que l'aigle, quand il est fatigué, il prend juste son envol, se pose, se met un peu dans le courant et trouve le repos. Et je pense que c'est une grande leçon pour nous à nous reposer, même face à l'adversité, aux circonstances et aux tempêtes les plus terribles, à apprendre à nous reposer en Christ, le rocher, la forteresse de Dieu. Eh bien, quelle est la réponse? Alors, je veux terminer ce message ce matin. Quelle est la réponse du peuple? Verset 18, Josaphat s'inclina le visage contre terre et tout Juda et les habitants de Jérusalem tombèrent devant l'Éternel pour... Je vous ai perdu déjà. Verset 18, pour l'adorer. Quand Dieu bénit et promet une délivrance, qu'est-ce que fait le peuple de Dieu? Il peut croire ou ne pas croire. Attendez, là ils ont cru, alors ça les amène à l'adoration. Les Lévites d'entre les fils des Kéatites et d'entre les fils des Corites se levèrent pour célébrer d'une voix forte et haute l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ils ont cru en la réponse de Dieu et ça les a poussés à la louange. Est-ce que vraiment notre peuple, nous le peuple de Dieu, nous sommes poussés à la louange? Vous savez pourquoi on ne loue pas Dieu? Parce qu'on ne le croit pas. On ne croit pas en ses promesses. On ne croit pas en sa toute-puissance. Alors nous faillissons, nous faiblissons et nous ne louons pas Dieu. Et nous ne l'adorons pas parce que nous ne croyons pas en ses promesses. Qu'est-ce que fait le peuple? Regardez avec moi, c'est extraordinaire. Verset 20 au verset 23. Le lendemain, donc de la promesse faite par l'Esprit de l'Éternel qui avait saisi Jacaziel le prophète, le lendemain, vous voyez, ils ne sont pas du tout passifs, ils croient. Alors qu'est-ce qu'ils font? Le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. Alors des pères Josaphat se présenta et dit, « Écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem, confiez-vous à l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. » Puis d'accord avec le peuple, ils nomma des chantres qui, revêtus d'ornements sacrés et marchant devant l'armée, célébraient l'Éternel et disaient « Louez l'Éternel, car sa miséricorde dura toujours. » Vous vous rendez compte de ce qui se passe ici? Ils n'ont aucune arme, ils votent des chantres qui se mettent devant et qui louent. Vous avez déjà vu une armée dans l'histoire de France et de Navarre et des pays? Est-ce que vous avez déjà entendu parler des gens qui ont été envahis? Alors ils ont monté un orchestre, ils sont partis devant eux, ils ont chanté en louant les louanges de l'Éternel. Vous avez déjà lu ça dans les livres d'histoire? Non. Comme dira Québec, pantoute. Pas du tout. Ça n'arrive pas ça. Ça n'arrive que ceux qui croient en Dieu. Et pourtant c'est arrivé ici. Ils ont loué, ils ont adoré le Seigneur et ils ont fait trembler la terre. C'était comme Jéricho, ils ont tourné cette fois, vous connaissez l'histoire. Et là, ils sont partis dans la confiance du Seigneur. Ils ont eu la louange parce qu'ils ont eu la foi. Et j'admire Josaphat. Confiez-vous à l'Éternel, votre Dieu. Quel esprit de chef, de modèle, de berger. Type de Christ, là, je dirais. Hein. Voilà, peuple de Dieu, levez-vous, louez le Seigneur, et vous réussirez, et vous vous affermirez. Si vous avez confiance en Dieu, alors faites entendre vos cris, soldats de l'Éternel, et prenez vos armes, la cuirasse de la justice, la ceinture de la vérité, l'épée de l'esprit, le casque du salut, et faites entendre vos cris, parce que Dieu est avec vous, il va combattre avec vous. Et comment il a fait le Seigneur ? Deux versets seulement pour nous dire comment il a fait. Ah, le Seigneur, quand il agit, c'est rapide. Regardez avec moi. Verset 22. Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel... Voyez, au moment, seulement quand ils ont cru, Dieu est intervenu. Quelle leçon encore spirituelle. L'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séir qui étaient venus contre Juda et ils furent battus. On dirait qu'il y a parmi les trois nations une qui a combattu les autres. Finalement, il y a une embuscade et les deux autres se sont entretués. Les fils d'Ammon et de Moab se jetèrent sur les habitants de la montagne de Séir pour les dévouer par interdit et les exterminer. Mais quand ils en eurent fini avec les habitants de Séir, ils cédèrent les uns les autres à se détruire. Alors Dieu a permis qu'il y ait un aveuglement, une folie qui entre dans ses armées. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont entretués. Vous savez, un jour, qu'est-ce qu'on a hâte d'être au ciel et qu'on va voir les démons en enfer? Mais Dieu déjà aujourd'hui est capable de détruire ce qui pourrait faire mal aux enfants de Dieu. Et nous avons la délivrance à cause de la bienveillance de notre Dieu. Voyez-vous, si Josaphat n'avait pas prié, s'il n'avait pas jeûné, le peuple ne se serait pas assemblé. Il n'aurait pas été d'un seul homme pour prier. Dieu ne serait pas intervenu. Ils auraient été tous exterminés. Nous allons regarder, pour terminer, les résultats de l'intervention de Dieu. Parce que chaque fois que Dieu intervient, alors il y a une certaine souffrance. Un jour de jeûne, écoutez, hein, ça peut faire que perdre quelques grammes. Ce n'est pas difficile, ça. Mais vous savez, l'attitude du cœur, par contre, c'est important devant Dieu. Un jour de jeûne et de prière en Israël. Et regardez les résultats de Dieu dans la vie d'Israël. Verset 24. « Lorsque Juda fut arrivé sur la hauteur, d'où l'on aperçoit le désert, ils regardèrent du côté la multitude, et voici, c'était des cadavres étendus à terre, et personne n'avait échappé. » Quelle belle surprise, hein ? Vous savez, l'accomplissement de la louange, ça a des effets assez miraculeux. Josaphat et son peuple allèrent prendre leurs dépouilles et ils trouvèrent parmi les cadavres d'abondantes richesses des objets précieux et ils en enlevèrent tant qu'ils ne purent tout emporter. Ils mirent 3 jours au pillage du butin car il était considérable. Considérable. Dieu les enrichit d'un énorme butin. Oh, la bénédiction de l'Éternel enrichit et ne la fait sûr d'aucun malheur. C'est vrai. C'est incroyable la bénédiction de Dieu. Il a enrichi le peuple. Est-ce que, moi je crois que Dieu honore ceux qui ont la foi. Dieu bénit ceux qui ont la foi. Et ce n'est pas fini. Verset 26. Le quatrième jour, ils s'assemblèrent dans la vallée de Béraka, et en arabe, Baraka, c'est la bénédiction, on connaît ce mot-là, où ils bénirent l'Éternel. C'est pourquoi ils appelèrent ce lieu vallée de Béraka, nom qui lui est resté jusqu'à ce jour. Tous les hommes de Juda et de Jérusalem, ayant à leur tête Josaphat, partirent joyeux pour retourner à Jérusalem. Et soulignez ça dans votre Bible, car l'Éternel les avait remplis de joie en les délivrant de leurs ennemis. Il y a un principe à retenir ici. Face à l'adversité que Dieu permet, si j'ai la foi et si je vois, si je me base sur les promesses de Dieu, je goûte à une délivrance qui remplit mon cœur de joie. Et j'ai envie encore plus de vivre avec le Seigneur. Parce que la joie du Seigneur appelle à nouveau la joie du Seigneur. Le résultat du combat spirituel, c'est la joie du Seigneur. Est-ce que nous sommes dans la joie dans nos vies chrétiennes? et pas n'importe quel résultat. Versets 29 et 30, pour terminer, la terreur de l'Éternel s'empara de tous les royaumes des autres pays lorsqu'ils apprirent que l'Éternel avait combattu contre les ennemis d'Israël. Et de quelle façon, n'est-ce pas? Et le royaume de Josaphat fut tranquille et son Dieu lui donna du repos de tous côtés. Quand l'Église de Christ est victorieuse, comme dans les Actes des Apôtres, l'Église primitive, et chaque jour, Dieu ajoutait à l'Église ce qui était sauvé. L'Église devient attirante. Quand il y a une bénédiction dans l'Église, une grande délivrance et le butin du Seigneur, l'Église, butin spirituel, je m'entends, l'Église devient attirante et vit en paix. Et le monde en a tellement, tellement besoin. La Bible dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître à Dieu par des prières, des supplications et des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Christ. J'aimerais faire une remarque avant de conclure au sujet de la louange. Puisque nous voulons apprendre à louer, dans ce passage ici, il y a trois sortes de louanges. Ça va être très bref. Il y a la louange adoration. Quand Dieu a donné la réponse à Israël, ils ont adoré. Et l'adoration, en fait, dans le mot hébreu, c'est se prosterner. C'est adorer Dieu lui-même. La louange vient du fait qu'on adore Dieu lui-même. C'est la louange adoration. Dans le passage qu'on a vu tout à l'heure, où le peuple s'est mis à louer devant l'adversaire, c'est la louange du témoignage. C'est la louange de croire que Dieu va accomplir ce qu'il a promis. C'est de dire oui à Dieu. Que votre oui soit oui, dit la Bible d'ailleurs. Et dans ce cas-là, ce n'est pas la louange, écoutez-moi bien, qui amène à la victoire, mais c'est la foi en Dieu qui pousse à louer Dieu et qui amène la victoire. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi, dit 1 Jean 5,4. C'est la louange témoignage. Et pour terminer, la louange bénédiction. Il est écrit que le peuple a béni Dieu, puis qu'il a loué encore parce qu'ils ont connu cette grande délivrance. C'est la louange de voir l'œuvre accomplie de Dieu. Vous avez compris cela ce matin? Trois sortes de louanges. L'adoration que tout croyant doit faire, se prosterner devant Dieu. La louange qui croit dans les promesses de Dieu, qui va accomplir les choses et les délivrances. Et enfin, la louange qui remercie Dieu de ce que Dieu a accompli. Vous savez, nous regardons à ces événements de l'Ancien Testament comme des choses extraordinaires, et puis c'est peut-être du passé. Le Nouveau Testament, les Actes des Apôtres, c'est du passé. Mais Dieu n'est pas passé. Dieu est présent. Hein? Dieu est présent. Alors, la prière agissant du juste a une grande efficacité, nous dit Jacques. Face à l'adversaire, nous avons appris que nous pouvons jeûner et prier, basé sur les promesses de la parole de Dieu, notre foi basée sur les promesses de Dieu. Mais nous avons appris dans la prière de Josaphat que tout le peuple était uni pour prier. Et ensemble, la gloire de Dieu s'est manifestée, parce qu'ensemble, ils ont cru et ils ont obtenu cette délivrance. Je suis convaincu que chacun de nous, quelque part dans nos vies, il y a un besoin de délivrance. En tant qu'Église, nous avons besoin de délivrance. Alors, prions ensemble. Et venez vendredi soir pour prier. Souriez-moi, s'il vous plaît. C'est pas normal de venir à l'Église prier. Mais oui. Prions ensemble. Ô notre Dieu, tu as bien voulu parler à nos cœurs ce matin. Ta parole est si riche, si profonde, et nous nous humilions devant toi, parce que nous confessons que parfois, nous ne croyons pas comme nous devrions croire. Pardonne-nous, Seigneur. Purifie-nous de notre incrédulité. Glorifie ton nom dans nos vies, Seigneur, et permets que cette histoire de Josaphat marque nos cœurs, nos esprits. Je
te prie, Seigneur, pour mes frères et sœurs bien-aimés, que tu nous enrichisses les uns les autres de ta présence ici, dans nos vies, et que nous puissions apprendre à prier, à jeûner, pour voir la victoire de Dieu. Et nous t'en donnerons toute la gloire, Seigneur Jésus, qui est mort et ressuscité pour nous. Amen.